on en est là. On est dans une situation où il y a une crise gigantesque du capitalisme, mais il n'y a pas de mise en cause du capitalisme, parce qu'à la différence de la situation qu'on a connue dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, sur l'ensemble de la planète, à l'exception peut-être de l'Amérique latine, ce modèle n'est pas remis en cause. Et dans ces conditions, la crise ne peut pas trouver sa solution.
Serge Halimi, alors supposons aux prochaines élections, on a un parti nouveau qui existerait à la gauche. Et supposons qu'ils arrivent en tête. Quelle serait leur possibilité de gouverner et d'exercer le pouvoir ?
Bon, il y a des tas de choses qui sont évoquées dans l'article et qui reviennent notamment sur cette politique européenne prévue par les traités, sur l'indépendance de la Banque centrale, sur la priorité accordée à la lutte contre l'inflation, sur le fait qu'au Parlement européen, vous avez toujours une alliance entre la droite et les socialistes pour se partager les postes. Donc il y a un certain nombre de verrous institutionnels et politiques qui sont en place. Sans compter le fait que le système électoral français favorise, à travers le système du deuxième tour, un affrontement entre les deux partis arrivés en tête, et que 18 mois avant que commence l'élection, les gens se posent la question de savoir quel est le vote utile. Au lieu de se demander quelle est la politique qu'ils souhaitent, ils se demandent quel est le vote utile, quel est le candidat qui sera le plus en mesure de battre Nicolas Sarkozy, sans se demander dans quelle mesure les politiques de ce candidat inverseront la politique de Nicolas Sarkozy, qu'il condamne à juste titre. Donc vous avez un certain nombre de blocages qui sont à la fois institutionnels et politiques, et qui tiennent aussi à la manière dont nous agissons en tant que citoyens quand nous votons, à la manière dont nous nous laissons prendre par ce petit jeu politique qui nous éloigne des vrais enjeux, pour estimer que la vraie priorité, c'est de se débarrasser soit d'Aznar en Espagne, soit de Berlusconi en Italie, soit de Sarkozy en France, sans voir dans quelle mesure ce sont les politiques d'Aznar, de Berlusconi et de Sarkozy qui posent un problème, et dans quelle mesure les solutions qui sont proposées par un certain nombre de partis de gauche ne constituent pas la réponse à ce problème.
Mais on entend, on le dit, écoutez, votez utile pour les prochaines élections, votez Hollande si vous êtes de gauche. Ça, c'est dans les urnes, et le lendemain, c'est dans la rue. Souvenez-vous de 1936, où la population a débordé, dépassé et poussé le gouvernement nouvellement élu à faire les réformes que l'on sait, et réformes importantes toujours pour nous aujourd'hui.
Alors là, vous avez raison, c'est l'un des précédents historiques que je cite, et qui me paraît être porteur d'espoir, mais il faut admettre que des précédents historiques de ce type, il n'y en a pas des centaines. Mais en 1936, vous avez un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir sur la base d'un programme très modéré. Le programme, c'est uniquement barrer la route au fascisme. Il n'y a pas vraiment de réformes sociales qui sont prévues dans le programme du Rassemblement populaire qui l'emporte en avril-mai 1936. Seulement, quand ce gouvernement de gauche arrive au pouvoir, vous avez un puissant mouvement social qui se déchaîne spontanément dans les usines, où vous avez des ouvriers qui se disent « maintenant que la gauche est au pouvoir, en tout cas, on peut faire grève, elle n'enverra pas la police contre nous ». On occupe les usines, on prend les usines en quelque sorte en gage pour s'assurer que cette victoire de la gauche se traduira par une amélioration de nos conditions sociales. Et la gauche va faire voter la semaine de 40 heures et les congés payés, qui sont deux dispositions qui ne figurent pas dans son programme, parce que les usines sont occupées, et parce que les patrons terrorisés vont la voir et la supplier de mettre un terme à ses occupations d'usine en payant le prix nécessaire. Et les patrons qui n'acceptent pas de payer quoi que ce soit un centime en temps ordinaire, qui demandent toujours à obtenir davantage de concessions du salariat, là vont être les premiers à dire « on est prêt à payer le prix que vous voulez parce qu'il faut que les usines nous soient restituées ».
Aujourd'hui, est-ce que on évoque la 36, comparaison n'est pas raison, parce qu'il y avait une classe populaire, une classe ouvrière extrêmement forte qui jouait un rôle important dans l'économie, dans la vie politique. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui un tel monde social ?
À l'heure actuelle, non. Mais enfin, ces mouvements-là sont absolument imprévisibles avant qu'ils ne surviennent. Vous auriez été en 1935... Vous avez un prolétariat qui est certes nombreux, mais qui est complètement désorganisé, qui est très peu syndicalisé, et personne ne donne cher de ses chances de se redresser. Vous auriez été en Tunisie il y a un an, vous n'auriez pas imaginé les révoltes arabes et la contagion, entre guillemets, de ces révoltes à l'ensemble de la région. Donc ces mouvements-là ont pour principale caractéristique de ne pas s'annoncer longtemps.